courtoisie@rc.fr. Je rappelle, courtoisie@rc.fr. N'hésitez surtout pas, vos questions, vos remarques seront les bienvenues. Nous serons heureux de les proposer à notre invité. Nous abordons donc maintenant cette deuxième partie d'émission. La Constitution de la 4e, mais aussi celle de la 5e République, précise dans leurs articles que la France est une république laïque. Et pourtant, cela n'a pas empêché de nombreux incidents et les débats de se multiplier, tout d'abord autour de l'affaire du voile de Creil en 1989, puis par exemple pour le port de l'abaya à l'école, aussi les questions des crèches dans les mairies, des statues religieuses dans l'espace public, du port de signes religieux aussi dans les entreprises. Mais l'importance croissante de l'islam en France, religion qui ne sépare pas le politique du juridique et du religieux, mais aussi le recul de la religion catholique et la montée de l'indifférence religieuse menace effectivement un des principes fondateurs de la République française, c'est-à-dire le principe de laïcité, car la laïcité fait bien partie de notre histoire et de notre culture. Mais de quelle laïcité s'agit-il ? Force est de constater que ce terme peut être parfois mal utilisé, ou en tout cas utilisé avec des compréhensions, des intentions très différentes, jusqu'à une forme de militantisme anti-religieux. Il est donc indispensable de bien comprendre ce mot, ce terme de laïcité, et d'en connaître l'étymologie, mais aussi l'histoire. Il s'agit en effet aussi de comparer l'utilisation et la compréhension que nous en avons en France par rapport à celle de nos voisins. Le Carrefour d'histoire religieuse publie chaque année les fruits des colloques qu'ils organisent en des ouvrages collectifs aux chapitres qui ont souvent un ton personnel, original, mais très intéressant. Nous avions ainsi reçu, il y a quelques mois, Marianne Vallier pour les publications du colloque de 2025 qui a été consacré à l'œcuménisme, mais notamment tel qu'il est pratiqué par l'abbaye bénédictine de Chevetogne. Ce soir, nous recevons le président de ce carrefour d'histoire religieuse, Bruno Bétouard, qui va nous présenter justement les fruits du colloque de 2024 qui était consacré à la laïcité. Et donc ce colloque et ses publications, hein, les actes de cette université d'été du carrefour d'histoire religieuse, eh bien, étaient consacrés à la laïcité. Nous allons aborder avec Bruno Bétouard cette histoire, l'histoire de la laïcité, puisque elle a fait l'objet évidemment d'un certain nombre d'exposés durant ce colloque, durant cette université. Nous aborderons avec lui l'histoire de la laïcité depuis l'Antiquité. Nous verrons que c'est quelque chose qui remonte à très loin. Nous aborderons avec lui l'étymologie du mot, la manière dont la laïcité s'est mise en place en France, tout d'abord par l'école et puis après dans la société. Et nous observerons aussi ce qu'est la laïcité ailleurs, hors de France, en Europe, en Italie, en Afrique aussi, avec un éclairage particulier sur une région de France justement, où la laïcité qui est pratiquée est très différente, pas très différente bien sûr, mais est différente de celle qu'on trouve dans le reste de la France. C'est en Alsace-Moselle, qui est régie par le Concordat. Et donc, nous avons le plaisir, chers auditeurs, vous l'avez compris, de recevoir ce soir Bruno Bétoir, donc, qui est le président de cette association du Carrefour d'Histoire Religieuse, pour évoquer avec lui cette question, qui est une question à la fois d'histoire et une question d'actualité. Le thème de l'émission, c'est tout simplement une histoire de la laïcité. Bruno Bétoir, bonsoir.
Bonsoir.
Ah, nous vous entendons très bien. Vous nous entendez bien aussi, je suppose.
Oui, parfaitement.
Eh bien, c'est très bien. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct pour évoquer effectivement les actes de cette 32e université d'été du Carrefour d'Histoire Religieuse, qui est consacrée à la laïcité. Le titre d'ailleurs précis, c'est « La laïcité, enracinement, enjeu et perspective ». C'est ce dont nous allons parler ce soir. Alors je crois que c'est la première fois que vous venez à Radio Courtoisie.
Eh oui, c'est de la faute de Marianne Vanier.
Oui.
Oh ben j'avais l'habitude d'accueillir. D'ailleurs, je sais qu'elle nous écoute et je la remercie la même occasion.
Et je la remercie aussi parce que effectivement, c'est elle qui nous a mis en contact et elle a écrit un chapitre particulièrement intéressant de cet ouvrage, de ces actes, qui est justement la laïcité en Alsace-Moselle.
Elle est universitaire à Metz,
c'est ça.
Et donc elle est très bien placée. Alors, je vous précise, qu'à l'époque, en 2024 et d'ailleurs en 2025 également, j'étais président. Je l'étais depuis 2005, depuis 20 ans.
Vous ne l'êtes plus ?
Mais désormais, c'est Jean-Jacques Gauthier, un magistrat, qui est depuis 2026 notre président. Je ne suis que son modeste secrétaire.
Bon. Mais en tout cas, lorsque les actes de ce colloque ont été publiés, vous étiez le président.
Donc, voilà, vous avez tout à fait raison.
Donc on va considérer ainsi les choses. Alors je vous présente donc aux auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes professeur des universités émérite d'histoire contemporaine à l'université littorale Côte d'Opale. Vous avez principalement comme thème de recherche la démocratie chrétienne, le syndicalisme chrétien en France et en Europe, mais aussi l'histoire politique, sociale et religieuse en France et dans la région Nord-Pas-de-Calais. Nous allons voir, à travers vos publications, vous avez l'air très attaché à votre région, du Nord. Ça ressort à travers vos écrits.
Elle est aussi ensoleillée que le Sud actuellement.
Peut-être un peu moins chaud, non ?
Oui,
ce qui est une bonne chose.
Et beaucoup mieux.
Oui. Mais vous avez aussi participé à la vie politique, puisque vous avez été pendant de nombreuses années maire de Montreuil-sur-Mer et président de la communauté de communes du Montreuilois. Et vous êtes, depuis 2022, président, vous l'êtes toujours, j'imagine, président de la société académique du Touquet-Paris-Plage, qui nous relie avec notre président de la République, que vous devez croiser de temps en temps, j'imagine, Emmanuel Macron, puisqu'il a une maison là-bas.
Je l'étais encore il y a quelques mois.
Et vous n'êtes plus, mais vous avez abandonné tous vos mandats.
Oui, non, mais c'est normal, c'est la démocratie et c'est la capacité de passer de l'un à l'autre.
Alors, je vais citer quelques ouvrages. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Je vais en citer quelques-uns. Vous avez écrit « Des syndicalistes chrétiens en politique, 1944-1962, de la libération à la Ve République, aux presses universitaires du Septentrion ». Vous avez écrit aussi « La mine et la foi, Joseph Sauty, syndicaliste des gueules noires ». Ça, c'était aux éditions Les Échos du Pas-de-Calais.
L'homme qui osa défier le général de Gaulle lors de la grève des mineurs en 1963. Et qu'il le fit reculer.
Il fit reculer le général de Gaulle ?
Oui, il a obligé le général de Gaulle, qui voulait se lancer dans une occupation d'usine, il l'a obligé à la négociation, et la commission Massé, qui a été le fruit de cette négociation, a abouti à une entente, une espèce de contrat nouveau avec les mineurs.
Mais alors pourquoi vous intitulez ça « La mine et la foi » Joseph Sauty, syndicaliste des Gueules Noires.
Parce que Joseph Sotti est un militant CFTC,
Ah, ça c'est un bon syndicat, ça.
Confédération française des travailleurs chrétiens,
Oui.
absolument convaincu de la nécessité qu'il ne faut pas mettre son drapeau dans sa poche. Et il a été le premier adversaire de la CFDT qui a pratiqué la déconfessionnalisation.
Oui. Et la séparation date de 1974, donc je crois.
1900, la séparation date de 1964.
64, c'est plus ancien.
Oui, et c'était l'année qui a suivi la résistance des mineurs, CFTC, au général de Gaulle. Il avait du mal à l'accepter.
Oui, ça se comprend, en effet. Mais qu'est-ce qui vous intéresse à titre personnel, Bruno Bettoir, justement dans le syndicalisme chrétien, puisque vous avez écrit de nombreux ouvrages sur ce sujet?
J'ai eu la chance, dans le cadre de recherches personnelles, de découvrir ces militants syndicalistes chrétiens, catholiques pour la plupart, du Nord et du Pas-de-Calais, qui étaient des hommes de condition très modeste, des enfants d'ouvriers formés par la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne, et qui, grâce à cette formation, ont été amenés à prendre des responsabilités syndicales dans la CFTC. Par exemple, Jules Catoire a été le fondateur du
Oui.
syndicat libre des mineurs face à la CGT toute puissante. Et avec quelques amis, ils se sont engagés en politique dans la grande aventure du MRP, Mouvement Républicain Populaire à la Libération.
Et d'ailleurs, vous citez ces personnes, et sans doute faut-il préciser qu'ils n'ont pas attendu 1944 pour résister aux Allemands. La CFTC
Ah,
s'est engagée dès le
dès le
début.
départ,
Oui.
Jules Catoire, et avec Guy Mollet, son compagnon de résistance socialiste, lui, ils sont dès le départ des fervents gaullistes. Il était d'ailleurs militaire dans un régiment de chars, et pour lui, le général de Gaulle, c'était la référence dès juin 1940.
Vous avez aussi écrit avec Xavier Boniface La séparation des églises et de l'État dans le Pas-de-Calais, un siècle d'histoire et d'archives. Et puis un autre livre aussi étonnant, avec toujours Xavier Boniface, Les chrétiens, la guerre et la paix, de la paix de Dieu à l'esprit d'Assise. Et ça,
Là, c'est le fruit d'un carrefour d'histoire religieuse qui a
c'est
été
ça.
publié aux presses universitaires de Rennes.
Exactement, oui. Et qu'est-ce qui vous passionne tant? Parce que vous ramenez souvent ces expériences à ce qui s'est passé dans le Nord. Qu'est-ce qui vous passionne dans le
Qu'est-ce que vous voulez?
Nord-Pas-de-Calais?
Quand on est dans une région que l'on trouve jolie, riche, et dont les hommes ont le soleil dans leur cœur, comme disait le cher Enrico Macias, on est forcément intéressé. Et puis j'ai eu la chance, je tiens à le dire, d'avoir un professeur qui fut mon maître, le professeur Yves-Marie Hilaire, professeur d'histoire contemporaine, qui, avec son collègue Gérard Schönvy, a renouvelé, j'allais dire complètement révolutionné, la compréhension, l'approche de l'histoire religieuse de la France contemporaine à la fin en 1989-1990. Il se trouve que j'étais son étudiant. Je suis devenu son disciple et je me suis lancé dans ce carrefour d'histoire religieuse, dans son sillage. Et il enseignait à l'université de Lille.
Vous avez aussi écrit avec Alain Autin La dévotion mariale de l'an 1000 à nos jours.
Ah
Ça,
oui,
c'est.
j'ai toujours été passionné, Monsieur Delcourt, par les liens positifs et négatifs, bénéfiques et conflictuels entre le religieux et le politique. Vous devinez bien que la laïcité faisait partie de ce champ
De ce sujet, oui, en effet.
de ce centre d'intérêt.
Alors je vous propose, avant que nous rentrions donc dans les actes de cette université du carrefour d'histoire religieuse et laïcité, enracinement, enjeu, perspective, avant que nous rentrions justement dans cette histoire de la laïcité, que vous nous présentiez, s'il vous plaît, ce qu'est le carrefour d'histoire religieuse.
Nous sommes en 1992, il y a donc 34 ans, et nous sortons notre 34e édition des Actes, qui était consacrée l'année dernière à la question l'Orient, l'Occident. Et donc, Yves-Marie Hilaire, justement, et Gérard Schönvy, accompagnés d'un journaliste que vous connaissez peut-être, en tout cas, vous connaissez peut-être sa revue. Les deux premiers, Yves-Marie Hilaire et Gérard Schönvy, étaient d'éminents professeurs d'histoire religieuse l'un à Lille, Marie Hilaire, Gérard Cholvy à Montpellier, et avec un troisième compère, Jean-Yves Rioux, qui est l'actuel directeur de la revue qui traite d'histoire et de culture religieuse Codex. Si ça vous dit quelque chose, en tout cas, j'en profite pour faire un petit peu de publicité pour cette magnifique revue Codex. Ils ont eu une intuition simple. Le fait religieux est un élément important qui mérite une sorte de réactualisation permanente, comme on se réactualise dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la philosophie, de la culture, voire même de l'informatique. Bref, de faire tous les ans une session sur un thème donné de l'histoire du fait religieux. C'est l'ADN de ce carrefour d'histoire religieuse qui possède un conseil d'administration composé d'une trentaine de membres, dont la moitié sont des historiens universitaires. Mais le président, regardez actuellement, c'est un magistrat. Il existe dans ce conseil d'administration, il y a quatre membres du clergé, il y a des théologiens, des exégètes, des enseignants du secondaire et un journaliste. L'intuition, c'est donc remettre à jour les connaissances en matière d'histoire du fait religieux, comme une sorte de formation continue à partir d'un thème qui est dans l'air du temps. La laïcité est dans l'air du temps depuis des années.
Mais ce sont toujours, oui, pardon, ce sont toujours des thèmes à caractère religieux, la cité, bien
Oui,
sûr.
alors ce sont toujours des thèmes où on peut aborder la question religieuse. Par exemple, en 2025, c'était Orient-Occident. L'année qui a précédé la laïcité, c'était la conversion, les convertis. Ensuite, on a un thème, la nature, sacrée nature, le corps dans la religion. La prédication, la foi et l'action publique, les religions en fait, rites et liturgies, juifs et chrétiens à travers l'histoire, etc., etc. Nous avons la chance d'être aidés par une fondation, la fondation Louis Florin, qui était un membre très actif un prêtre, membre très actif de notre carrefour, qui nous permet d'avoir les subsides nécessaires pour éditer tous les ans, d'une année sur l'autre, l'ouvrage qui est le fruit des actes de l'année précédente.
À quel public vous adressez-vous?
Public très varié. Alors essentiellement, c'est vrai, des personnes intéressées par l'étude religieuse, c'est-à-dire des jeunes. On donne la parole à des jeunes doctorants. Le public, c'est un public d'adultes qui sont avec un niveau d'études relativement important, mais ça n'est pas tellement là la question. La question, c'est est-ce que le fait religieux les intéresse dans sa dimension en lien avec l'ensemble des autres données? Ce qui est intéressant, c'est de permettre à des personnes de faire un état des lieux de leurs connaissances religieuses dans un échange avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément du même avis qu'eux, mais qui peuvent dans ce carrefour pouvoir échanger. Un des caractères de cette session qui s'étale sur 3 jours, 3 jours et demi, c'est la richesse des échanges, puisqu'on a affaire à des exégètes, des théologiens, des historiens, des philosophes. Et des hommes qui interviennent à l'intérieur de chaque session.
Peut-être pouvez-vous préciser le thème de votre université de cette année qui vient de se terminer et
Oui,
qui
nous
fera...
étions à
Oui.
Nevers, à l'espace Bernadette Soubirous, où l'évêque du lieu, un jeune évêque ancien étudiant en histoire, Monseigneur Drouot, nous a accueillis avec beaucoup de chaleur et nous étions tout à fait honorés de sa présence. Le thème était un thème qui était lié à une question d'actualité, c'est religion et martyr. Sous-titre, Mourir pour Dieu. Et nous avons étudié à travers cette session toute l'histoire dramatique, mais aussi en même temps très très forte, très dense, très émotionnel de ces hommes et de ces femmes qui, depuis plus de 2000 ans, ont accepté de donner leur vie pour en fidélité à leur Dieu. Il y avait des témoignages tout à fait intéressants qui seront retranscrits dans les actes sur notamment les moines de Tibérine. C'était le sujet précédent. Et le docteur et Monseigneur Clavry et son chauffeur Mohamed, avec des personnes qui ont témoigné, qui sont des exégètes ou des théologiens, qui étaient très très proches d'eux. Donc vous voyez, on est vraiment au cœur de l'actualité.
Eh bien, j'espère que vous viendrez nous en parler, Bruno Bettoir.
Écoutez, on va
Hein,
d'abord faire en sorte que les actes puissent se faire. Mais
c'est ça.
on essaie depuis 20 ans, plus de 20 ans maintenant. Nous parvenons, et je crois que c'est assez rare dans l'édition, surtout universitaire, puisque c'est dans les cahiers du littoral de l'Université du Littoral Côte d'Opale, donc ça a un statut universitaire, nous essayons de sortir les actes à la session suivante, de juillet à juillet.
Alors j'en reviens, si vous voulez bien, donc à la laïcité, enracinement, enjeux et perspectives, hein, qui est le titre des actes de cette université d'été du Carrefour d'histoire religieuse dont vous venez nous présenter le travail. La mission, c'est une université d'été qui s'est tenue en juillet 2024. Vous écrivez, Bruno Etoua, vous avez fait l'introduction de ces actes. Vous écrivez au début de votre introduction, la laïcité est un outil, non une fin en soi, un instrument forgé dans le but non de brutaliser, mais de pacifier la société. Pourquoi avez-vous choisi ce thème et comment l'avez-vous traité?
Nous l'avons traité de manière, comme d'habitude, de manière historique, en reprenant toute l'histoire de ce mot qui est apparu, comme vous l'avez dit dans votre introduction, qui apparaît dans l'Iliade et l'Odyssée, donc dans le cœur de notre culture occidentale, également qui apparaît dans l'Ancien Testament, avec le terme de Laos, et qui va ensuite être mis en place dans le christianisme. On ne peut pas comprendre la laïcité si on ne sait pas que la laïcité, qui vient du terme laos, laïkos, laos étant en grec le peuple dans son ensemble, qui s'oppose au démos, qui représente les institutions, et laïkos, le laïc qui s'oppose au cléricos, c'est-à-dire le clerc, on ne peut pas comprendre le sens du mot laïc si on ne le replace pas dans le contexte, le cadre général du christianisme. C'est le christianisme qui lui a donné ses lettres de noblesse. Le pape Jean-Paul II tenait beaucoup à rappeler cette origine chrétienne du mot laïque. D'ailleurs, Monsieur Delcourt, dans quelle autre civilisation la laïcité, c'est-à-dire la séparation du religieux et du politique, pour faire court, dans quelle autre civilisation au monde y a-t-il une telle réalité? C'est le christianisme qui est le fondement. Alors, avec une histoire compliquée, nous allons le voir ensemble, mais au départ, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est le principe même de la séparation des pouvoirs, d'un côté César, de l'autre côté Dieu. Nous sortons d'une société qui était jusqu'alors homogène, tout en un. Socrate s'était moqué des dieux. Il a donc été condamné politiquement parce que, en se moquant des dieux, on se moque de l'État, et en se moquant de l'État, on mérite la mort. Dieu et César sont désormais séparés, par conséquent, le dualisme de notre civilisation remplace ce que l'on appelle en termes un peu savants le monisme d'autres civilisations qui ont existé et qui existent encore, notamment les sociétés, la civilisation musulmane, où là, Mahomet est un chef politique, un chef religieux et un chef d'une communauté. On a là l'ensemble des caractéristiques de ce qui existait sous l'Empire romain. L'empereur avait l'imperium, le pouvoir militaire, il avait l'auctoritas, le pouvoir politique, et il était pontifex maximus, c'est-à-dire souverain pontife. Il avait les trois. Jésus fondateur du christianisme, sépare le pouvoir politique du pouvoir religieux. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.
La séparation, ce n'est pas la loi de séparation en 1905, c'est le Christ en quelque sorte.
Ben,
C'est ce
c'est
que vous nous
le point de
expliquez.
départ. C'est le point de départ, monsieur Delcourt.
Oui. Mais juste,
Alors,
oui. Parce que.
vous pouvez y aller, allez-y.
Oui. Bruno, je vous propose, Bruno Bétoir, justement, puisque vous nous faites à la fois l'historique de ce concept de laïcité en disant c'est un concept d'origine chrétienne avec cette parole du Christ qui heurte en quelque sorte ce qui se pratiquait dans l'Empire romain, puisque vous nous rappelez que comme dans la religion musulmane, effectivement, il n'y avait pas de séparation entre le politique et le religieux, le Christ, lui, institue cette séparation. Mais ça, comment vous le reliez justement à la notion de laïcité et aussi. Puisque c'est un point important, vous démarrez vos colloques avec l'histoire du mot laïcité. Vous nous avez parlé, vous avez expliqué que c'était un terme juridique issu du grec et du latin, laïcus, que le terme laos est présent dans l'Ancien Testament. Vous donnez aussi le sens du mot laïque au Moyen-Âge, c'est lai en fait, hein, c'est L-A-I,
Tout à
lai.
fait.
Au Moyen
Oui,
Âge,
absolument.
voilà, qui désigne le nom clair. Ce que l'on a du mal à comprendre, parce que c'est très complexe cette notion de laïcité. Il y a tellement de compréhensions différentes, il y a tellement de formes différentes. Pourriez-vous nous expliquer le lien entre l'étymologie, son histoire, hein, entre voilà le sens grec, le sens latin, le sens au Moyen Âge et ce que dit le Christ. Parce qu'au Moyen-Âge, lai, ça désigne quelqu'un qui est un non clerc. Voilà.
Oui,
Pas un
absolument.
religieux. Voilà. C'est un laïc d'ailleurs. C'est le terme.
Tout à fait,
C'est un
tout à
laïc.
fait.
C'est
Et c'est
ça.
quelqu'un qui n'est pas clair.
C'est ça.
Qui n'est
Et.
pas clair, CLERC,
Oui, on a
naturellement.
quoi? Parfaitement. Et vous me parlez du terme laos dans l'Ancien Testament, etc. Quel est le lien entre ces étymologies, ces termes? Et puisque dit le Christ, on ne voit pas très bien le lien entre les deux.
Alors, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est la réponse que fait Jésus à Ponce Pilate, qui est le représentant politique du pouvoir en place. Jésus, et c'est Saint Augustin qui le précise très très bien, Saint Augustin qui est mort en 430, donc quelques siècles plus tard, Saint Augustin a écrit un remarquable ouvrage intitulé La Cité de Dieu. Marianne Vanier en parlerait mille fois mieux que moi. Et dans cet ouvrage, il rappelle que deux amours ont fait deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité terrestre. Premier aspect. Disons la société, la cité civile. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, l'inverse, la cité céleste. Les deux éléments, l'élément politique, pense Pilate, et l'élément religieux, Jésus, mon royaume n'est pas de ce monde, César d'un côté, Dieu de l'autre, ces deux éléments existent, coexistent dans notre société, mais il faut, dit le Christ, disent ses disciples, les séparer, ou plus exactement les distinguer, sans forcément les séparer, mais les distinguer pour qu'il n'y ait pas de fusion et d'union de ce qu'on appelle le trône et l'autel ou le sabre et le goupillon. Le problème, monsieur Delcourt, c'est qu'à peine le Christ et à peine les chrétiens se sont-ils développés dans les premiers siècles de notre ère de Jésus-Christ, à peine se sont-ils développés que Constantin leur rend un grand service, l'empereur Constantin, en 313, il leur donne la liberté de culte. Jusqu'alors, les chrétiens étaient martyrisés. On les accusait même d'athéisme, puisqu'ils refusaient le culte à l'empereur et qu'il ne confondait pas le religieux et le politique. Et en 380, c'est-à-dire pendant le IVe siècle, l'empereur Théodose, dans un édit de Thessalonique, fait du christianisme, cette religion qui veut séparer le politique et le religieux, il fait du christianisme et ça va courir toute l'époque médiévale et l'époque moderne. Il fait du christianisme la religion officielle, c'est-à-dire que César et Dieu sont à nouveau non plus, ils sont toujours distingués, mais ils sont pratiquement toujours unis. On retrouve cette fameuse union du trône et de l'autel, qui au départ étaient deux notions distinctes. Et il faudra, je vais très vite là, mais on va avoir peut-être le temps de revenir dans la période intermédiaire, il faudra attendre quasiment le Concile Vatican II, c'est-à-dire 1900, les années 60, pour qu'on revienne clairement à une distinction entre le pouvoir religieux et le pouvoir civil. C'est-à-dire que le christianisme, pendant toute la période médiévale et une bonne partie de la période moderne, avec des contestations qui se mettent en place, a vécu sur une harmonie, ce qu'on appelle la théorie des deux glaives, le roi d'un côté, le pape de l'autre, mais avec des problèmes. Mais il y avait la distinction entre les deux.
Mais Bruno Bettewar, justement, comment comprendre ça? Nous allons rentrer bien sûr dans l'histoire, hein, telle que vous le faites, dans les actes de ce colloque, l'histoire de la laïcité en France. Donc nous partirons, vous avez commencé à le faire, en parlant de l'Antiquité, du IVe siècle avec Constantin, du Moyen-Âge, de la Révolution, qui est en effet un moment de rupture. Nous évoquerons aussi la laïcité au 19e et jusqu'à nos jours,
Tout à fait.
et puis avec quelques éclairages sur des sujets tels que vous les abordez dans ce colloque, notamment c'est intéressant sur la laïcité vestimentaire,
Oui.
et puis bien sûr l'histoire de l'Église et comment le faire, l'Église et la laïcité, et puis nous regarderons, nous observerons en effet, ce qui se passe ailleurs, avec une conclusion dans laquelle vous essayez de vous projeter, de projeter cette notion de laïcité en France à l'avenir. Mais j'aimerais vous poser cette question. Comment expliquez-vous que vous avez rappelé que finalement c'est le Christ, hein, qui est le premier à en effet énoncer ce principe de séparation des pouvoirs spirituels et des pouvoirs temporels? Et en ça, c'est très très révolutionnaire par rapport à ce qui se pratique en effet dans le monde. C'est le Christ qui est à l'origine. Mais comment expliquez-vous, et vous venez de le souligner, que l'Église de Constantin jusqu'à Vatican II ne pratique pas du tout cette laïcité? Il y a
Alors, on va
tout un
dire jusqu'à la
chapitre,
Révolution,
pardonnez-moi,
jusqu'à la Révolution française. On va raccourcir un peu
oui,
la
mais
durée.
pourquoi l'Église ne le pouvoir et l'Église ne le pratiquent absolument pas. Au Moyen-Âge, c'est l'objet d'un de vos chapitres de ce colloque, hein, c'est le titre, je lis le titre, c'est par Pascal Montaubin, La laïcité, une notion étrangère à la chrétienté occidentale médiévale. Qu comment
Absolument.
comprendre cela?
La distinction des pouvoirs est une chose. César d'un côté, Dieu de l'autre. La séparation, c'est une volonté que ces deux entités soient non seulement distinctes, mais n'aient aucun rapport l'une avec l'autre. Le Moyen Âge distingue la théorie des deux glaives, le pouvoir politique et le pouvoir religieux, mais les deux ne forment qu'une, ils sont complètement unis. La société médiévale, et Pascal Montaubin a tout à fait raison quand il le dit, ne comprend pas la laïcité au sens de la séparation. Il le comprend au sens de la distinction. J'insiste sur ces deux termes parce que distinguer, ça n'est pas opposer. Séparer, ça a plus de chances d'opposer. Je grossis un petit peu le caractère, mais pour faire comprendre la subtilité. Dans l'époque médiévale, ça a duré quand même de 500 à 1500, ça fait 1000 ans. Pendant 1000 ans, nos ancêtres avait accepté une société qui était une société hiérarchisée, pyramidale, avec les oratores, ceux qui étaient chargés de prier, le clergé et les moines, les bellatores, ceux qui étaient chargés de défendre la société, en reprenant, distinctes donc du clergé, mais en reprenant les valeurs chrétiennes, d'ailleurs les deux valeurs de l'époque sont le moine et le chevalier, et les laboratores, c'est-à-dire ce qui va devenir le tiers-état, ceux qui travaillent. Cette société hiérarchisée a fonctionné pendant 1000 ans sous la houlette d'un roi en France, d'un empereur en Allemagne, et tout ceci, tout ce pouvoir politique, toute cette société civile et politique distincte des clercs dont le chef était le pape, avec des incidents amusants, hein, l'affaire de Canossa, par exemple, en 1077, un empereur qui avait voulu excommunier un pape avec lequel il n'était pas d'accord, doit venir lui demander pardon. Et il vient comme un pénitent. Ou le contraire, Anani, en 1303, le roi Philippe le Bel, qui était menacé d'excommunication, vient faire arrêter le pape. Donc vous voyez, il y a des conflits, mais il y a une distinction quand même entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux.
Alors néanmoins, dans ce chapitre, hein, consacré à la laïcité, une notion étrangère à la chrétienté occidentale médiévale, Pascal Montaubin écrit: « On trouve toutefois dans la société médiévale des éléments, au moins en germe, qui font partie des conditions nécessaires à une société laïque telle qu'on l'entend de nos jours. » Quels sont ces éléments en germe?
C'est la notion de liberté individuelle, de liberté, la distinction entre le clerc, qui est lui soumis au pape, soumis à l'évêque, mais le laïc, lui, qui va petit à petit, en tant que bourgeois dans les villes, s'émanciper et des chartes communales vont être mises en place dans cette société qui est une société chrétienne, où de plus en plus les femmes, dans des abbayes, dans des lieux de culture, mais aussi des bourgeois, vont s'émanciper de la tutelle, voire de la domination du clergé. Il y a des éléments qui sont petit à petit, qui vont se mettre en place et qui vont fleurir à l'époque de l'émergence de l'humanisme chrétien, avec de remarquables humanistes comme Érasme, le prince des humanistes, qui était un prêtre, mais qui souhaitait mettre en place une liberté de conscience, une tolérance, de même que Thomas More, son ami personnel, et puis des grands humanistes qui ont fait la fortune de la civilisation chrétienne, pendant que, deuxième élément, pendant que les protestants vont s'émanciper de Rome. Et le protestantisme est un facteur important de la mise en place d'une séparation, non plus d'une distinction, mais d'une séparation entre le religieux et le politique.
Souhaitez-vous,
Puisque
oui?
les protestants ne reconnaissent pas l'autorité du pape.
Donc il s'agit là de l'évolution à la Renaissance.
Oui, l'évolution à la Renaissance, qui va ensuite être suivie par l'évolution des philosophes. Après la grande période où règne la philosophie chrétienne avec saint Thomas d'Aquin et tous ceux qui ont suivi dans son sillage, petit à petit, des philosophes vont mettre en avant ce qui faisait une des spécificités du christianisme, c'est-à-dire l'identité, la dignité de la personne. C'était aussi une valeur chrétienne qui avait été au départ. Et c'est au nom de cette identité, de la dignité, de la valeur de la personne que certains philosophes comme Descartes, Cogito ergo sum, John Locke, qui va établir un contrat de confiance et une tolérance en matière religieuse, Montesquieu dans l'Esprit des lois, qui sépare les différents pouvoirs, c'est petit à petit, avec donc les humanistes, les protestants, les philosophes, que l'émergence de la conscience individuelle, qui s'origine elle aussi dans le christianisme, puisque le Christ s'adresse aux personnes et leur annonce qu'il n'y a plus ni grec, ni barbare, ni homme libre, ni esclave, ni homme, ni femme, mais qu'ils sont un et donc ont une valeur vis-à-vis de Dieu en tant que tel, la dignité de la personne va se trouver désormais défendue par des philosophes, par des personnes des Lumières, qui vont devenir anticléricales. Et le combat va s'installer à partir de la philosophie des Lumières entre des philosophes qui revendiquent l'autonomie de la personne, comme Rousseau, comme Diderot, qui est un philosophe qui se déclare athée, Voltaire, qui est un anticlérical. Donc, le combat pour la personne, la liberté de conscience, va devenir un cheval de bataille de ceux qui combattent l'organisation hiérarchique de l'Église. Voilà comment petit à petit se mettent en place les éléments qui vont être à l'origine de la Révolution française.
Et
Je suis tombé par terre. C'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Le petit Gavroche indique là l'héritage dont il est en quelque sorte le porteur, un héritage lié à l'émancipation de la personne par les philosophes.
Et Bruno Bétouard, pouvez-vous nous expliquer le lien qu'il y a entre, vous nous expliquez là, le combat pour l'émancipation, la liberté de conscience, la liberté religieuse,
Oui.
qui est acquise progressivement à partir de la Renaissance jusqu'aux philosophes des Lumières, Voltaire, Rousseau, Descartes, enfin, Descartes n'est pas philosophe des Lumières, mais bon, ça fait partie du chemin
Il
historique,
précède,
hein,
oui.
pour cette liberté de conscience. Quel est le lien entre cette notion de laïcité et cette émancipation, cette liberté de conscience? Parce que ça revient régulièrement, en effet, quand c'est ce que vous faites dans votre ouvrage, hein, sur les actes de votre colloque, que la notion de laïcité, c'est l'histoire de la liberté de conscience. Quel est le
Oui, tout à
lien
fait.
entre les deux?
Mais la laïcité, c'est la reconnaissance de l'identité personnelle de chaque être humain dans son opinion, dans ses croyances, dans son action. L'égalité de tous, l'égalité de conscience devant la loi, c'est un des éléments de la démocratie. Et cet élément d'égalité est lié à la liberté. Et l'égalité et la liberté sont des acquis liés au christianisme, mais qui ont été construits de par l'évolution d'une société qui demeurait très homogène dans sa religion catholique. Je vous rappelle que le roi, dans les lois fondamentales, devait être catholique. Les protestants commencent à se séparer de cette conception et ils vont permettre le développement d'une pensée qui va être une pensée qui sera complètement mise en place par une liberté de conscience. La liberté de la personne, c'est un des éléments de la laïcité. Parmi les éléments clés de la laïcité, on a l'égalité, la liberté religieuse, le pluralisme et la neutralité de l'État, ce que n'était pas à la fin de la période dite de l'Ancien Régime, la société française. Elle ne l'était plus. Elle ne permettait pas la liberté, notamment après le retour, la révocation de l'édit de Nantes. La liberté religieuse n'existait plus. Le respect du pluralisme n'était plus lui-même accepté, ni la neutralité de l'État, puisque le chef de l'État se devait d'être catholique. Vous voyez, il y a les ingrédients qui vont entraîner les philosophes à souhaiter une révolution. Et cette révolution va se faire contre l'Église. Et l'Église va avoir du mal à accepter.
Bruno Boutouin, nous allons effectivement parler de cette période révolutionnaire après la pause. Il est arrivé le moment de faire une pause, mais auparavant, j'aimerais vous poser une question. Alors là, je franchis les siècles en quelque sorte. J'arrive
Oui.
à la fin des actes de votre colloque où
Oui.
vous proposez une définition de la laïcité qui est celle d'ailleurs donnée par Monsieur Boniface. Hein,
Oui.
qui, alors, pour lui, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est une définition qu'il propose pour nos temps, pour les temps contemporains. C'est la
Oui.
neutralité de l'État,
Oui.
donc face aux questions religieuses, bien entendu, et c'est le fait de ne pas troubler l'ordre public. Pas troubler l'ordre public, et bien sûr, la liberté de conscience. Neutralité de l'État, liberté de conscience, et ne pas troubler l'ordre public.
C'est
Et
exactement
c'est.
ce que la
Oui.
Révolution proposait.
Alors, ma question, justement, ça, c'est une définition qui est très claire. Mais la question, c'est à partir de quand cette définition, qui est donc celle qui, en quelque sorte, a été mise en avant par la Révolution française, vous venez de nous expliquer. À
Oui, puisque le roi était catholique.
ça, à partir de quand cette définition, hein, qui est celle de M. Boniface, mais qui correspond à ce que vous venez d'indiquer, des critères de la laïcité, égalité, pluralisme, neutralité de l'État, et puis on rajoute trouble à l'ordre public. Est-ce
Oui,
qu'on
c'est fondamental,
oui,
la notion de trouble à l'ordre public.
c'est un point d'actualité parce
Oui.
que lors d'une fête musulmane récemment, il y a eu de très nombreuses plaintes
Mais oui.
de personnes s'élevant contre le fait qu'il y avait des haut-parleurs qui en
Oui, tout à fait.
public appelait à la prière. Et effectivement, le trouble à l'ordre public, on comprend que c'est important dans cette notion de laïcité. C'est une question en effet très actuelle. Mais ma question, si vous voulez bien, Bruno Bettouard, c'est à partir de quand cette définition apparaît-elle? C'est à quel
Alors,
moment en fait? Parce que vous avez expliqué l'histoire de la laïcité dans ses grandes lignes, bien sûr. Moi, je renvoie aux actes de votre colloque hein, pour les auditeurs de Radio
il y a
Courtoisie qui
toujours,
sont
il y a tout.
voilà. À partir de parce que on est parti de l'Antiquité. Vous avez parlé du Christ, etc., du Moyen Âge, la distinction mais pas séparation. Mais à partir de quand
Oui.
on a une définition aussi claire, aussi
Alors,
précise de la
cette
laïcité?
définition aussi claire et aussi précise. Elle est, nous l'espérons, pour aujourd'hui et pour demain, parce que quand on regarde l'histoire, ça n'a jamais vraiment réussi à fonctionner aussi clairement que ce que vous venez d'énoncer.
Alors pourquoi?
La Révolution française s'est faite en réaction contre les siècles de domination royale sous couvert avec la bénédiction de l'Église catholique. La Révolution française a tenté une déchristianisation qui a été soumise, qui a soumis la France à un régime de terreur. Au moment où Robespierre et ses amis montagnards prennent le pouvoir, ils sont en conflit avec le pape, en conflit avec une moitié de la France qui refuse de suivre la constitution civile du clergé. Et la grande terreur qui va avoir lieu au nom de la liberté et donc de la laïcité, même si la notion n'arrive qu'au 19e siècle, la notion de laïcité en tant que telle, hein, elle n'arrive qu'au 19e siècle, mais on a déjà là les germes. La grande terreur du 10 juin au 21 juillet 1794 fait 2500 condamnations à mort, soit 40 exécutions. Place de la Concorde, la mal nommée de l'époque, par jour. C'est dire que le conflit entre les forces de l'Ancien Régime et les forces nouvelles qui veulent changer la situation, et qui ne veulent plus d'une distinction, mais d'une séparation claire, ces forces sont des forces qui sont devenues des forces antinomiques. Pour qu'un État soit neutre, il faut que l'État ne s'occupe pas de politique. C'est Aristide Briand, de religion, pardon. C'est Aristide Briand qui dit pas de religion d'État, mais pas d'irreligion d'État. La neutralité exige qu'il y a une réelle séparation, donc pas seulement distinction, mais séparation entre le politique et le religieux. César d'un côté, Dieu de l'autre, sans confusion.
Mais pas d'opposition, pas d'anticléricalisme.
Pas d'anticléricalisme, puisque l'anticléricalisme va entraîner un conflit alors que nous sommes dans une société où normalement on doit se respecter, respecter la liberté de conscience des uns et des autres.
Donc l'exigence de l'État envers les religions, s'il est réellement neutre, c'est
C'est
effectivement...
d'être neutre, c'est l'article, c'est le monstre de souplesse, Aristide Briand, qui en 1905 l'a défini dans l'article premier. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. C'est la notion de d'ordre public, de trouble. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Et c'est là que va se situer l'exception mosellane, Lorraine, alsacienne et mosellane, puisque le concordat, qui va être le fruit d'une réconciliation des Français à la fin de la Révolution, après la période de la Terreur, le concordat de 1801 va permettre à nouveau une distinction, mais pas de séparation, puisque les prêtres sont payés par l'État dans le régime concordataire, et que, il y a toujours une distinction, mais pas de séparation en Alsace et en Moselle. D'ailleurs, tout récemment, il y a une polémique qui vient de se créer, puisque le pape Léon XIV vient à Metz, la municipalité a décidé d'accorder une subvention importante à la venue du pape, et un certain nombre de personnes trouvent que c'est une confusion des genres. Qu'il n'y a pas de distinction, ce qui est vrai dans l'essence, mais ce qui est vrai dans un régime de séparation, mais pas forcément dans un régime concordataire, comme on le trouve en Italie, comme on le trouve en Allemagne.
Alors, Bruno et toi, ce que je vous propose maintenant, c'est que nous fassions une pause. Vous avez évoqué la Révolution, vous pourrez revenir en effet sur ce qui s'est passé à la Révolution en matière de laïcité, mais il faut que nous abordions la laïcité du 19e au
Tout à fait.
21e siècle, si vous le voulez bien, hein, notamment la laïcité à l'école, dans l'enseignement supérieur, hors de l'école, dans le monde des entreprises. Et puis, nous ferons aussi un éclairage sur la laïcité vestimentaire. C'est un chapitre très intéressant de
Je suis à
votre
votre
colloque.
disposition.
Et puis, il faut évoquer, vous avez commencé à le faire, hein, ce qui se passe ailleurs. Comment la laïcité est comprise, alors notamment en Alsace-Moselle. C'est le chapitre de Marianne Vallière, avec des exemples très concrets, hein, pour qu'on comprenne effectivement les
Oui,
différents
tout à fait.
concepts. Et puis ce qui peut aussi se passer en Italie et dans d'autres régions. Est-ce que ça vous convient que nous fassions ainsi?
Absolument,
Très
je vous
bien, nous
suis.
faisons une petite pause, message de la radio, une petite pause musicale, quelques notes de Bach, et nous vous restez bien en ligne, nous vous reprenons.
Merci.
Vous êtes près de 2 millions à nous écouter, mais moins de 20 000 à donner. Pourtant, la gauche veut nous bâillonner, la gauche veut nous tuer. Répondez avec 1 euro. 1 euro pour garantir vos idées. 1 euro contre la censure. 1 euro pour rester libre. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Par avance, merci.
Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, après ce concerto pour clavecin de Jean-Sébastien Bach, nous poursuivons notre discussion avec Bruno Bétoir, qui est professeur émérite des universités à l'occasion de la publication des actes du 23e université d'été du Carrefour d'histoire religieuse et consacré à la laïcité enracinement, enjeux et perspectives. Bruno Bétoir, depuis le début de cette conversation, nous a expliqué l'étymologie de ce mot, l'histoire de ce mot, qui est une, avec des racines très anciennes, et une histoire aussi très ancienne qui nous vient de l'Antiquité, avec bien entendu le Christ, qui est le premier à parler de séparation des pouvoirs, rendre à Dieu ce qui est à Dieu et rendre à l'État ce qui est à l'État. Bruno Bétoir nous a expliqué l'histoire de ce concept de laïcité, qui est un concept complexe, hein, qui est compris différemment, et notamment suite voir ce qui s'est passé sous la Révolution très fortement anticléricale, qui cherche à imposer une religion d'État face à la religion catholique. Bruno Bétoir, je vous propose que nous abordions maintenant l'histoire de la laïcité du 19e au 20e siècle, mais nous avons le message d'un auditeur, j'aimerais vous le proposer. Voici ce qu'il nous dit. J'ai préparé le concours de professeur des écoles dans un IUFM de banlieue et nous étions constamment harcelés par cette idée d'une laïcité antichrétienne et au cas particulier anticatholique par les formateurs. J'ai stoppé cette formation dégoûtée par le manque de tolérance de cette république laïque. Comment croire à ce concept de laïcité quand cette dernière est mise au niveau des religions sectaires ?
Le problème, vous l'avez dit, monsieur Delcourt, le problème, c'est que la laïcité, le terme date de 1849, hein, donc c'est le terme laïcité, laïque. Laïkos existe depuis la nuit des temps, enfin depuis l'époque médiévale, mais le substantif laïcité n'apparaît pour la première fois que dans un conseil général du Var en 1849, le concept de la laïcité. C'est la Commune de Paris, qui est elle-même très anticléricale, qui va le mettre pour la première fois dans un décret de séparation, d'un projet de décret de séparation de l'Église et de l'État en 1870-1871. Et c'est Jules Ferry qui va créer en 1881 l'enseignement primaire gratuit, en 1882 l'école primaire obligatoire, et en 1883, l'instruction religieuse appartiendra désormais aux familles et à l'Église, d'où le jeudi qui va être accordé, et l'instruction morale à l'école. Voilà la laïcité qui s'installe dans l'école de la République. Mais une laïcité qui est une laïcité de respect total des convictions, à cette époque-là, des convictions des parents. Je vous lis, si vous le permettez, un extrait de la lettre aux instituteurs que Jules Ferry leur envoie en 1883. On parle de laïcité. « Avant de proposer à vos élèves un précepte, une maxime quelconque, demandez-vous s'il se trouve, un seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire. Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire. Sinon, parlez hardiment, car ce que vous allez communiquer à l'enfant, ce n'est pas votre propre sagesse, c'est la sagesse du genre humain. C'est une de ces idées d'ordre universel que plusieurs siècles de civilisation ont fait entrer dans le patrimoine de l'humanité. La voilà, la vraie laïcité, celle qui respecte la conscience de l'enfant et la conscience de ses parents, en ne choquant en aucune manière les convictions des uns et des autres.
Et ce n'est pas ce qui pique notre auditeur, ce n'est pas ce qu'il a vécu.
Exactement, exactement. Il y a une laïcité qui est un outil de respect des consciences, un outil de respect du vivre ensemble. C'est ce que les républicains, mais aussi les chrétiens, y compris ceux qui n'étaient pas forcément républicains, voulaient. Mais c'est très difficile à mettre en œuvre parce qu'on a des idéologies qui ont tendance à faire de cet outil le but, la fin ultime. Tant que la laïcité est un outil, cet outil, il permet le respect des croyances. Quand il devient un but, un objectif, il devient une idéologie et cette idéologie, elle vous sépare de l'autre, elle vous amène à le combattre. Un outil, oui, un objectif, non.
Alors, Bruno Bétouard, si on parle de l'époque contemporaine,
oui.
Dans la Constitution de la 4e République, dans celle de la 5e République, il est clairement dit que la France est un État laïque.
Elle a été conçue, la 4e et la 5e, oui, essentiellement par un certain Charles de Gaulle,
oui.
Catholique pratiquant, qui tenait absolument à la séparation entre le politique, oui, et le religieux.
Oui, mais ma question, c'est la suivante, si vous voulez, par rapport à la réflexion de l'auditeur,
oui.
Et puis aussi par rapport à ce que vous venez d'exprimer, qui est le respect des consciences.
Absolument. Hein,
le respect des consciences. Voilà, la laïcité, c'est un facteur de paix, hein, de respect de l'autre, de respect des consciences. Ce n'est pas un instrument de combat contre la religion, une religion, contre contre le cléricalisme, etc. Ce n'est pas ce qu'a vécu notre auditoire. Notre auditeur, quand il témoigne de cette formation très anti-religieuse, hein, la laïcité, c'est l'anti-catholicisme en quelque sorte. C'est ce qu'il a vécu. Est-ce que, quelque part, dans la Constitution ou dans les lois, il y a une définition claire de ce qu'est la laïcité, telle que vous venez de l'exprimer? Et puis, je poursuis ma question parce qu'elle est liée. En 2023, a été publié un guide de la laïcité dans la fonction publique.
Oui.
Que dit ce guide?
Neutralité.
Est-ce que c'est clair, dans la neutralité, dans le respect? Et non pas comme un véhicule anti-religieux, une croisade anti...
La neutralité, M. Delcourt, exige le respect, parce que si vous prenez parti pour ou si vous prenez parti contre telle conviction ou telle croyance, vous sortez de la neutralité et vous entrez dans l'idéologie, dans le combat. Moi, je reviens à cette formule chère à Aristide Briand, pas de religion d'État, comme au temps de la monarchie catholique, mais pas d'irreligion d'État, c'est-à-dire pas d'État anticlérical, voire même antichrétien, antireligieux. Il faut trouver entre les deux la ligne de crête pour permettre à cet outil d'être le respect de la conscience individuelle de chacun, celui qui permet l'expression du pluralisme et également, comme vous le disiez tout à l'heure, l'élément clé, c'est l'ordre public, que les convictions des uns et des autres n'en arrivent pas à un trouble de l'ordre public. Voilà, là, dans ces conditions-là, nous avons un outil qui peut fonctionner, mais il faut de la modération, au sens fort du terme, des uns et des autres.
Alors, la laïcité telle qu'elle est vécue en France et telle qu'elle est utilisée notamment par les tribunaux lorsqu'ils ont saisi un certain nombre d'affaires, correspond à celle que vous venez d'énoncer.
Oui, théoriquement.
Théoriquement, c'est ça.
Mais oui, théoriquement, Monsieur Delcourt. Mais quand vous avez un magistrat ou un enseignant qui veut faire de son cours où il doit respecter la conscience de ceux à qui il a affaire, vous avez un magistrat ou un enseignant qui veut faire passer sa conviction, toute respectueuse qu'elle soit, il sort de l'outil pour rentrer dans un objectif d'endoctrinement d'ici ou de là.
Alors, je prends aussi deux autres exemples, je vous les soumets, ce sont, parce que vous l'avez évoqué aussi hein, au début de votre ouvrage, Laïcité, enracinement, enjeux et perspectives. Donc c'est la maison d'édition qui publie vos actes, hein, c'est le cahier, ce sont les cahiers du littoral. Que penser des crèches dans les mairies? Que penser, par exemple, des statues Saint-Michel au Sable d'Olonne, je crois, ou à Olonne, je ne sais
Oui,
plus, et puis
il y a la fameuse statue de Jean-Paul II
Jean-Paul II à
qui est
Pleurmel.
installée sur l'île de Ré, là.
Voilà. Et que penser effectivement des attaques hein, ce sont des ligues qui s'intitulent laïques, hein, qui attaquent
La libre pensée,
la libre
notamment.
pensée. Voilà, je cherchais le mot, la libre pensée qui attaque régulièrement les municipalités pour ces pratiques. Est-ce que ces pratiques contredisent justement ce principe de laïcité tel que vous venez de l'expliquer.
Alors, cet objet de la laïcité, cet outil qui est la
Oui.
laïcité, et quelquefois, il faut le reconnaître, et votre auditeur a tout à fait raison, cet outil est détourné. Il
Oui.
devient un instrument d'endoctrinement ou de propagande ou de combat. Mais il y a un élément important dans le domaine juridique. Il y a la loi et il y a l'interprétation de la loi. La laïcité est donc un élément qui fait partie du paysage, qui est un paysage de liberté de conscience, de respect du pluralisme, de respect de l'ordre public, voilà. Mais il y a l'interprétation. Quand, par exemple, à peine la loi de 1905 votée, des anticléricaux ont estimé que les cloches qui sonnaient tous les dimanches ou tous les jours pour annoncer la mort ou l'Angélus à midi, ces cloches nuisaient au bien-être du citoyen, eh bien, le Conseil d'État, dans les années 1905, 1906, 1907, chargé d'interpréter la loi, a pris des arrêtés qui ont fait jurisprudence dans un sens bienveillant vis-à-vis du fait religieux. Il y a donc eu une lecture bienveillante de la réalité religieuse permettant l'exercice d'un certain nombre d'activités qui certes peuvent nuire à des personnes qui n'en veulent pas, mais qui sont le fondement de ce que j'appellerais une culture. Et les crèches, c'est la même chose, Monsieur Delcourt. Les crèches, dans les mairies, sont difficilement acceptables au nom de la neutralité, sauf si on considère que les crèches, de même que d'autres éléments, sont des éléments culturels qui correspondent à l'opinion, qui ont un accueil favorable dans une majorité de la population, ce qui est le cas de crèches. Donc, la jurisprudence peut, si elle est rigoureuse, refuser, si elle est bienveillante,
Elle peut accepter.
accepter.
Ah oui, tout est dans
Et donc, on est
l'interprétation.
dans un outil dont on fait à peu près ce que l'on veut, mais tout dépend de la motivation fondamentale que l'on a.
Et c'est là où le caractère personnel intervient,
Ben
dans
oui.
un environnement qui est de moins en moins chrétien.
Alors voilà,
C'est.
vous soulevez une question très importante, c'est la question de l'intégration du monde musulman, qui n'est pas dualiste, qui ne connaît pas la séparation, en tout cas dans le monde musulman, l'intégration de cette donnée musulmane, qui est une donnée qui est importante depuis quelques décennies et qui remet en cause cet outil déjà très fragile, très subtil qu'est la laïcité. C'est une ligne de crête qui devient de plus en plus aiguë.
Que suggérez-vous en la matière? Est-ce une question que vous avez abordée dans votre colloque?
On n'a pas abordé la question. Ça mériterait effectivement de, par la suite, de retravailler la question. Alors, bon,
Parce
pour ce
que.
qui relève du monde musulman, si vous m'interrogez sur le monde musulman, la difficulté, Monsieur Delcourt, c'est que là, il n'y a pas d'autorité référent. Il n'y a pas de référence. Le monde musulman est un monde très divers. Avec beaucoup de variété. Et il n'y a pas comment dire, une sorte de doctrine officielle partagée par l'ensemble de la communauté musulmane. On n'est pas comme dans l'Église catholique, par exemple. Et donc, c'est difficile pour un État d'avoir sur le plan comme interlocuteur une autorité qui fasse. Qui soit le référent de l'ensemble de la population musulmane.
Bruno Bétouard, justement, sur cette question, j'aimerais vous lire le message d'un auditeur.
Oui.
Et voici ce qu'il nous dit. Comment rester neutre et respectueux face à des formes de religion qui vont à l'encontre de nos mœurs?
Ah
Polygamie,
oui.
mort de l'apostat social ou physique, refus d'épouser un non-coreligionnaire, etc. Ces problèmes n'existaient pas en 1905.
Il a raison, l'auditeur.
Ben oui.
Il a tout à fait raison. Nous sommes dans une situation nouvelle. Alors vous imaginez, elle est déjà difficile à gérer dans un terrain qui est un terrain chrétien, qui est à l'origine de cette distinction. Et là, il faut intégrer une population qui n'a pas à l'endroit où elle est née. Où ses ancêtres sont nés, une culture. Alors, ce qu'il faut espérer, c'est que le temps, petit à petit, permette d'en arriver à une distinction entre ce que l'on appelle la conviction personnelle, sa manifestation et le respect de cette conviction personnelle et de cette manifestation, y compris sur la place publique, qu'elle soit respectueuse de l'ordre public. Et respectueuse des fondements de cette société. Et les fondements de la société en Europe et dans la civilisation telle qu'elle a été dans le monde occidental, elle a un certain nombre d'éléments qui sont le contraire de ce que votre éditeur vient de citer.
Bruno Bétouard, il ne nous reste malheureusement que 10 minutes à passer en votre compagnie. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'évoquer à titre d'exemple de que se passe-t-il ailleurs, hors de France, enfin,
Oui,
ça c'est en France en fait, hein, mais que se
c'est toujours
passe-t-il ailleurs,
intéressant.
quels autres concepts de laïcité a-t-on ailleurs? Et un bon représentant de cela, c'est l'Alsace-Moselle, justement. C'est bien sûr, l'Alsace-Moselle, c'est la France,
Alors,
hein,
nous ne sommes pas
naturellement.
ailleurs.
Mais
Nous ne sommes pas ailleurs.
exactement, on est en France, mais quand même, c'est un autre concept de la laïcité. C'est le chapitre intitulé L'exception concordataire de l'Alsace-Moselle, qui a été écrit, chapitre écrit par Marie-Anne Vanier, que nous saluons, hein, bien entendu.
Oui.
Je vous propose de nous expliquer ce qui se passe. En Alsace-Moselle, comment l'histoire
Eh
a-t-elle
bien,
installé cette autre conception de la laïcité? Et surtout, très concrètement, à quoi ça
oui.
correspond? En quoi c'est différent du concept de laïcité que l'on trouve ailleurs en France, en dehors de l'Alsace-Moselle?
Mais ce qui se passe en Alsace-Moselle, alors je vous rappelle qu'en 1905, l'Alsace et la Moselle, pas l'Alsace et la Lorraine, hein, mais l'Alsace et la Moselle, donc Metz et Strasbourg, l'Alsace et la Moselle sont devenues allemandes. Ce sont des provinces allemandes. Donc la loi de 1905 ne peut être appliquée sur un territoire allemand. Quand, avec Robert Schuman notamment, les Alsaciens et les Mosellans reviennent et redeviennent, pour leur plus grand bonheur, français, à ce moment-là, un certain nombre de personnes qui avaient combattu, dont les ancêtres avaient combattu le Concordat, veulent obliger l'Alsace et la Moselle à passer dans le régime de séparation des Églises et de l'État. Or, une loi ne peut pas être rétroactive. Robert Schuman et ses amis vont défendre mordicus à l'Assemblée nationale et obtenir le maintien de l'exception concordataire en Alsace et en Moselle, puisqu'une loi ne peut pas être rétroactive. De fait, en Alsace et en Moselle, nous sommes dans un système concordataire où l'État est distinct des éléments religieux, qu'ils soient catholiques, protestants, juifs. Musulmans, ça n'était pas encore le cas. C'est ça le problème, c'est qu'à cette époque-là, il n'était pas présent. Et donc, comme dans tout régime concordataire, les prêtres sont payés par l'État, les églises sont entretenues par l'État, les associations sont également des associations, peuvent être subventionnées au titre de n'importe quel autre club sportif, culturel ou philosophique. On a une distinction voulue par Napoléon, mais pas de séparation. C'est-à-dire qu'on n'a pas là ce que les catholiques, les protestants, les juifs et les musulmans doivent faire, c'est-à-dire payer leur clergé, même si les églises sont désormais, et les bâtiments publics sont désormais pris en charge par l'État, mais les catholiques dans le monde concordataire bénéficient d'avantages, notamment sur le plan financier, et les associations bénéficient d'avantages financiers. Et il y a par exemple obligation quand il y a nomination d'un évêque, obligation d'accepter les trois propositions faites par le gouvernement français. Et l'investiture canonique pour l'évêque est donnée par le pape, ce qui est absolument pas le cas en France, puisque là, la séparation fait que, en dehors des églises, les prêtres et toutes les associations sont payées par les fidèles des différentes religions, et que le pape nomme qui il veut. Vous voyez, c'est une distinction très. Alors, il existe des universités qui sont financées par l'État, dans lesquelles la théologie existe, alors que c'est quelque chose qui n'existe pas dans le système de séparation des Églises et de l'État. Nous sommes dans un régime de distinction et pas de séparation pour ce qui concerne l'exception concordataire.
Mais il y a un véritable contrôle de l'État sur la religion.
Oui, il y a un contrôle. Il y a un contrôle de l'État, mais dans une. Non, contrôle au sens financier du terme, au sens de la nomination, des propositions de nomination, mais l'investiture canonique, c'est-à-dire le droit, le pouvoir qui est donné à l'évêque ou au pasteur, ça relève de l'autorité religieuse et non pas de l'autorité politique.
Mais néanmoins, c'est le gouvernement
Qui fait une proposition.
qui fait une proposition d'évêque.
Oui, tout à fait.
Trois évêques et Rome choisit
Exactement.
parmi eux. Oui.
Alors, c'est le
C'est un peu
système
comme
concordataire.
l'église officielle en Chine, non?
Ah, alors
Un peu
en Chine,
provocant, hein,
vous savez, non, 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 mais c'est ce qu'on appelle le gallicanisme pour la France.
Oui.
Le gallicanisme, c'est être d'abord français et catholique ensuite. En Chine, on est dans un ultra-gallicanisme, entre guillemets.
Oui.
C'est-à-dire que là, vraiment, c'est un contrôle. Et c'est un contrôle qui, bien souvent, se moque un peu de l'avis du pape. Le pape François s'est lancé dans une expérience qui est très douloureuse, parce qu'il avait fort à faire, et le pape Léon XIV, ce sera pareil, avec les décisions de nomination d'évêques en Chine. On n'a pas du tout en Chine,
Oui.
on est dans une culture moniste, on n'a pas du
Oui.
tout la distinction des pouvoirs.
Bruno Bétoir, malheureusement, il ne reste que 3 minutes
Oui.
pour cette émission et notamment ce thème important de l'exception concordataire que l'on connaît mal. Et j'imagine qu'il fait question qu'un certain nombre d'hommes politiques aimeraient certainement remettre en question maintenant, en cause maintenant.
Ah, mais
Il y a
c'est
des
toujours
points.
remis en cause.
Comment? Pardon?
C'est toujours, il y a toujours un combat, il y a toujours une
Il y a
volonté
toujours. Oui.
de rentrer l'Alsace et la Moselle dans le régime commun.
C'est ça. Alors, autre point du concordat, c'est ce que précise Marianne Vanier, c'est que l'Église catholique ne peut pas librement créer de paroisses et le nombre de prêtres est limité par le pouvoir.
Mais c'est exactement ce qui existait sous le concordat.
C'est toujours le cas.
Oui, tout à fait, puisque l'État doit faire des économies, et il fait des économies en matière religieuse, puisqu'il doit aussi financer les fonctionnaires religieux.
Oui.
Alors, les économies nécessitent, et c'est pour ça qu'un certain nombre de chrétiens en 1905 et de catholiques se sont réjouis de la séparation, parce que désormais, on peut fonder toutes les paroisses que l'on veut, on peut nommer n'importe quel évêque, on n'est plus soumis à ce droit de regard et ce droit de nomination des autorités politiques. En Italie, nous sommes beaucoup plus près du régime concordataire avec les accords du Latran. Nous sommes beaucoup plus près du régime concordataire que du régime de séparation de la France. En Allemagne, en Belgique, nous sommes beaucoup plus près du régime de la concordataire que du système français. En fait, le système français, avec ses qualités et ses limites, est quasiment une exception en Europe.
Comment
Et aux
l'expliquer?
États-Unis, les églises ont été désétablies, mais comment dire, le président continue de prêter le serment sur la Bible. On a des conceptions totalement différentes. La France est d'une certaine manière une exception.
Alors justement, ça sera ma dernière question, si vous voulez bien, Bruno Bétoir. Nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Je rappelle que nous avons le plaisir de vous recevoir pour les actes du colloque de l'Université d'été du Carrefour d'histoire religieuse qui était consacré à la laïcité enracinement, enjeux et perspectives que vous publiez aux éditions Les Cahiers du Littoral. Ma dernière question, au terme de cette émission, quel avenir voyez-vous pour la laïcité en France? Vous avez expliqué, effectivement, c'est vraiment une particularité de notre pays par rapport aux autres pays. Vous avez évoqué l'exemple d'ailleurs de l'Alsace-Moselle qui est édifiant en la matière. Alors quel avenir pour la laïcité en France?
L'avenir nous viendra peut-être de ce que nous ramènent les Africains de l'expérience de la laïcité du temps des colonies françaises. Ils l'ont reçue en tant que telle. L'Afrique a développé, et c'est un article de Sébastien Fatt dans cet ouvrage tout à fait intéressant, l'Afrique a mis finalement en avant une laïcité qui n'était plus une laïcité d'opposition, comme elle l'est trop souvent dans notre métropole, mais une laïcité
Merci.
d'accommodement, une laïcité de
Bruno
respect.
Bétoir, malheureusement, je dois terminer cette émission. Merci beaucoup d'être venu ce soir en direct. Merci à Michael qui a réalisé cette émission. Merci à vous tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour votre fidélité. Très bon dimanche soir à vous tous. Et n'oubliez pas que Radio Courtoisie a besoin de votre soutien.
Vous venez d'entendre le libre journal des amitiés françaises de Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie de 19h30 à 21h et réalisé par Michael. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.